C'est un miracle, mes très chers frères, qui a son efficace dans la résurrection même de Jésus-Christ. Par sa mort, il a vaincu la mort, nous dit l'Écriture. Par sa mort, il a vaincu la mort. Nous sommes très loin, encore une fois, permettez-moi de le répéter, de l'apologie du bonhomme, quoique païen, qui mériterait bien d'avoir un coup de pouce et d'être inclus dans l'Église. Nous sommes ici en train de demander à un Dieu qui peut tout, mais qui est infiniment irrité et indigné par le péché du pécheur, nous lui demandons qu'il applique les mérites de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ à cette personne qui est actuellement emportée volontairement par les démons vers l'enfer, où elle sera ensevelie et dont la perspective d'être ensevelie dans l'enfer ne lui fait strictement rien. Nous demandons quelque chose qui est extrêmement audacieux. Nous demandons à notre Père, le Seigneur Dieu, d'appliquer souverainement les mérites de la résurrection de Jésus-Christ à cette personne qui est en train de se damner volontairement. Car on se damne tous volontairement, parce que personne n'est excusé de se damner. Il nous faut donc, mes très chers frères, intercéder en invoquant l'œuvre du salut opérée par notre Seigneur Jésus-Christ, et en demandant humblement son application à telle ou telle personne pour laquelle nous prions. Vous voyez, invoquer l'œuvre du salut. Seigneur, cette personne, je le sais bien, et vous le savez, est en train de se perdre. Elle est en train de se damner. Alors, on parlait tout à l'heure du temps qui se perd. Elle est en train de perdre son temps parce qu'elle a de moins en plus, sa vie passe, de moins en moins elle a de temps pour faire pénitence. Il lui reste de moins en moins de temps pour faire pénitence. Voilà le véritable drame du temps qui passe. C'est parce que nous perdons des moments précieux pour faire pénitence, et non pas nous perdons un temps précieux pour servir l'Église. Pour faire pénitence, servir l'Église, on verra par la suite. Et celui qui fait pénitence sert véritablement l'Église. Intercédez, mes très chers frères, en invoquant l'œuvre du salut et en demandant humblement à Dieu son application à la personne pour laquelle nous prions. Et nous savons que nous serons exaucés, parce qu'il est écrit « Et le mort se mit sur son séant et commença à parler, et Jésus le rendit à sa mère. » Aussitôt ressuscité, notre Seigneur, nous disent les commentateurs, le rend à sa mère, c'est-à-dire à l'Église. Une personne à laquelle nous parlons, à laquelle nous faisons valoir les arguments du christianisme, une personne qui était, mettons, hostile au christianisme, et qui devient favorable au christianisme, et qui va faire des commentaires positifs vis-à-vis du Moyen-Âge, vis-à-vis de la monarchie, vis-à-vis des papes, etc., n'est pas une personne convertie, c'est une personne qui a changé d'opinion. Mais vous savez, ce n'est pas parce que la grâce nous touche qu'on change d'opinion. On peut changer d'opinion dans le monde, et il y a beaucoup de gens qui avaient une opinion à un moment de leur vie, et puis qui ont l'opinion contraire à un autre moment de leur vie, sans que rien de surnaturel ne soit passé, hein. Même s'ils sont passés d'une mauvaise opinion à une bonne opinion. On sait très bien, ceux qui connaissent un petit peu tout ça savent très bien qu'il y a des écrivains gauchistes qui sont devenus des écrivains d'extrême droite, rien qu'en réfléchissant sur certaines choses, sur la laideur des gauchistes et sur une certaine esthétique de ce qu'on trouve à l'extrême droite, en tout cas dans la période historique. Est-ce que c'est une personne qui a reçu la grâce? Non, c'est une personne qui a changé d'opinion. Tant mieux pour elle, mais ça ne veut strictement pas dire qu'elle est convertie. Vous voyez, bien souvent, nous parlons aux personnes pour lesquelles nous prions, et ce n'est pas une mauvaise chose, ce n'est pas une mauvaise chose, mais nous leur parlons tellement univoquement que nous donnons l'impression à Dieu, si c'était possible, que l'essentiel, c'est qu'elles changent d'opinion. Mais aujourd'hui, tout le monde change d'opinion. L'Internet permet une révolution permanente des opinions. Vous avez même des maîtres à penser qui en 10, en 20 ans, ont changé, mais 4 ou 5 fois d'opinion. Nous sommes à l'époque du changement d'opinion, ça n'a rien de surnaturel. Aussitôt ressuscité, Jésus-Christ rend le mort, l'ex-mort donc, à sa mère, c'est-à-dire à l'Église. Nous devons nous attendre à ce que la personne, pour être véritablement convertie, devienne un membre de l'Église. Pas simplement se fasse baptiser, hein. Il y a une différence entre le fait de se faire baptiser et devenir membre de l'Église. Si nous avons tellement bien baratiné les choses, baratiné la personne, et cette personne lui dit « Bon, ben, effectivement, je comprends que sans le baptême, on ne peut pas être sauvé, donc vas-y, baptise-moi », et que nous disons « Ah ben, c'est merveilleux, cette personne a tout compris, donc je vais la baptiser ». Cette personne est baptisée, mais est-ce qu'elle fait vraiment elle est membre de l'Église? Alors on dit « On ne peut pas être membre de l'Église sans le baptême, je l'ai baptisé, donc elle est membre de l'Église ». Oh là, oh, attendez, c'est un membre clandestin de l'Église, c'est un membre qui rentre par la fenêtre. Vous l'avez catéchisé? Quand bien même vous l'avez fait, est-ce que vous êtes un prêtre? Est-ce que vous avez la mission? Alors vous avez dit n'importe qui, de toute façon n'importe qui, même un païen peut rentrer, peut baptiser. Oh là, oh là! Vous prenez disons, les possibilités théoriques pour le ministre, ministre ordinaire du baptême. Le ministre ordinaire du baptême, c'est le prêtre, et autrefois c'était l'évêque. C'est l'évêque qui agrège à l'église, c'est le prêtre qui fait rentrer dans l'église. Si vous, il y a quelqu'un qui vient et qui dit « Ah, mais voilà, je me suis converti, j'ai été baptisé par mon pote, voilà, j'aimerais communier », qu'est-ce que va dire le prêtre? Moins d'être un mauvais prêtre qui dira « Ah, ben c'est merveilleux, venez, n'attendez plus », il va lui dire « Attendez, mon petit bonhomme, qu'est-ce qui me dit que vous êtes baptisé? Vous avez votre certificat? Oh, ben, mon pote va vous faire un certificat. Comment ?» Vous voyez, il faut que cette personne soit rendue à l'Église, c'est-à-dire qu'elle passe par la voie hiérarchique. Alors vous allez dire « alors, oui, bien sûr, si vous convertissez quelqu'un sur une île déserte, bien sûr, il y a des cas. Vous êtes sur une île déserte? Non, vous êtes en France, dans un pays où il y a des millions de gens, où il y a des dizaines de prêtres, et où on peut quand même, moyennant un tout petit peu d'effort, faire les choses comme il faut. Alors arrêtez de parler des cas de figure qui n'existent, qui ont peut-être existé une fois depuis que le Christ existe, le Christ a fondé l'Église, que l'Église existe. Alors, il se trouve que notre Seigneur Jésus-Christ a rendu ce mort à sa mère. Il le rend donc à l'Église. L'Église ne reçoit les âmes que pour les rendre un jour vivantes et pures à Jésus-Christ, son époux, après les avoir éprouvées par la discipline. C'est une chose merveilleuse que de voir quelqu'un qui change d'opinion et qui demande le baptême et qui veut être membre de l'Église. Après, il faut qu'il persévère. Il faut savoir, mes très chers frères, il faut savoir que la conversion doit se poursuivre au-delà du changement d'opinion. Celui que Dieu touche efficacement, tout d'abord, se lève en quittant son péché. C'est la moindre des choses. Mais malheureusement, bien souvent, les conversions que l'on voit, spécialement les conversions par la militance, par l'Internet, etc., sont des conversions qui s'arrêtent là. C'était des pauvres petits modernes, etc., qui faisaient toutes sortes de péchés énormes. Ils se convertissent, ils arrêtent de faire les péchés. C'est très bien, et alors après, c'est déjà pas mal. Attendez, non, c'est juste le début. Il se lève en quittant son péché. Celui que Dieu touche efficacement. Celui que Dieu touche efficacement, deuxièmement, commence à parler en se confessant. Bon, ben ça, effectivement, les retraites de Saint-Ignace, les confessions, etc. Bon, mettons qu'on se confesse. Mais celui que Dieu touche efficacement, troisièmement, se met entre les mains de sa mère, c'est-à-dire de l'Église, se soumettant à la puissance et la discipline de l'Église, et s'abandonnant à la conduite des ministres et vivant de son esprit. C'est une chose que d'arrêter de faire des péchés grossiers, c'est une chose que de se confesser. Après tout, le moderne n'a pas un très grand sens de l'honneur. Donc on peut très bien se confesser sans que ça coûte beaucoup et s'imaginer avoir fait quelque chose de grand. D'une certaine manière, c'est très bien, mais il faut mettre à bien la confession, plutôt l'absolution qu'on a reçue. Il faut se remettre entre les mains de l'Église et vivre de la discipline, dans la discipline de l'Église, se laisser guider et vivre de son esprit. C'est pour ça qu'il est rendu à sa mère. Il est rendu par le Christ à sa mère. C'est le Christ qui, par l'application de ses mérites, l'a ressuscité. Mais il se trouve qu'il le rend à sa mère, et c'est-à-dire qu'il le place dans un contexte réel. Celui que la personne que vous auriez convertie et puis qui ne va jamais à la messe parce que toutes les chapelles sont trop embrouillées, on ne sait pas trop qui croire, et puis qui fait sa petite tambouille de son côté, et puis qui... il n'a pas été rendu à l'Église. Il a fait un pas dans la bonne direction, mettons. Mais il n'est pas rendu à l'Église. Il est rendu à lui-même différemment. Il a peut-être reçu des grâces, c'est ça qui est terrible. Il a peut-être reçu des grâces, mais qu'en fait-il? S'il est rendu à l'Église, c'est qu'il en avait été arraché par le péché, comme ce fils unique avait été arraché à sa pauvre mère par la mort. S'il est rendu à l'Église, c'est qu'il avait été arraché, il en avait été arraché par le péché. Donc ce n'est pas un honneur que l'Église fait au pécheur de le recevoir, mais une grâce imméritée. Il ne faut pas flatter ceux qu'on veut convertir en disant, tu vas voir, quand tu seras, quand le baptême, c'est une magnifique cérémonie, tu vas voir, et puis il y a des gens, et puis le parrain, et puis tu vas voir l'évêque, quand il va te confirmer, il va te donner la baffe du chevalier, tu vas devenir un chevalier. Oui, tout ça, c'est vrai, sous un certain rapport. Enfin, déjà, un soldat, c'est déjà pas mal. Mais tout ça, c'est vrai, mais il ne faut pas flatter les gens avec. À quoi ça sert d'avoir reçu ce fameux soufflet sacramentel de l'évêque avec la confirmation, si c'est pour aller vivre comme un païen ou comme un chrétien qui fait sa volonté propre, ce qui est pire. Attention, il ne faut jamais flatter. Il ne faut pas dire, regardez, ça va être une belle cérémonie, les gens vont t'applaudir. Malheureusement, quand il s'agit d'avoir n'importe quelle petite starlette d'Internet qui se convertit à son baptême, tout le monde applaudit, tout le monde débouche le champagne, etc. Oh! Faudrait plutôt pleurer. Vous allez dire, mais c'est le moment de se réjouir. Bah, oui, pleurez de joie alors, si vous voulez, mais de là à faire sauter les bouchons de champagne, il ne faut pas exagérer, hein. Alors vous allez dire, le fils prodigue. Oui, le fils prodigue, bien sûr. Le fils prodigue n'est pas acclamé comme une star qui revient, c'est le père qui fait éclater sa joie. Et c'est pour cela que les cérémonies de réconciliation, les cérémonies de baptême, toutes les cérémonies de l'Église sont magnifiques, sont belles, et elles donnent de la joie en elles-mêmes, par elles-mêmes. On peut bien sûr prolonger cela dans une sorte d'allégresse un peu plus matérielle, mais il se trouve qu'il ne faut pas flatter le pécheur en l'appâtant, un petit peu comme les petits-enfants autrefois, ou même maintenant, on leur dit, voilà, faire ta première communion, tu seras bien sage, tu seras bien gentil, tu feras tout comme il faut, puis après tu auras des beaux cadeaux. Et les enfants disent, ah, j'ai hâte que ça soit ma première communion, tout le monde se fond en émotion en disant, regardez, c'est peut-être un petit saint, non, parce qu'il veut les cadeaux. Il faut intercéder auprès de ce Dieu si bon et qui a tout fait pour se doter des moyens de sauver les pécheurs, mais il faut intercéder auprès du Dieu saint pour des pécheurs qui sont tout sauf saints, qui sont tout sauf désirables, qui sont tout sauf agréables à Dieu. Il faut intercéder auprès du Dieu vivant pour des cadavres morts en putréfaction. Et en troisième lieu, qui comportera des aspects très pratiques, mes très chers frères, remontons un petit peu dans l'histoire, et on voit, l'Évangile dit, le Seigneur, à sa vue, de la mère, fut touché de compassion pour elle et lui dit, ne pleurez pas. Comment devenir un intercesseur et sortir de l'illusion du combat qui ne consiste qu'à courir à l'aventure et à frapper l'air, comme dit saint Paul? Il y a deux foules dans cette histoire, la foule qui accompagne notre Seigneur et la foule qui accompagne la mère éplorée. Ces deux foules, nous disent les auteurs, l'une avec notre Seigneur, c'est l'Église triomphante, et l'autre qui accompagne la veuve, c'est-à-dire l'Église dans son état de veuvage depuis l'ascension, c'est l'Église militante. Les deux, qui ne sont qu'une dans l'absolu, contribuent à la conversion du pécheur. Notre Seigneur Jésus-Christ est bien sûr le principal auteur de la conversion par l'application de ses mérites, nous l'avons dit, à ceux que le Père lui a donnés. Mais son corps mystique, qui n'est autre que lui-même, participe et coopère, nous disent les auteurs, par les mouvements secrets de pénitence et par ses pleurs. Jésus-Christ est touché par les larmes de son Église, n'est touché que par les larmes de son Église, nous dit un auteur. L'Église, Jésus-Christ n'est touché que par les larmes de son Église, c'est-à-dire il n'est que par la pénitence qui se fait dans son sein de l'Église, avec le secours de ses prières, par l'esprit de son époux qui gémit en elle, qui gémit en elle, avec elle et pour elle. Il n'écoute que la charité de l'Église, toujours appliquée au salut de ses enfants, qu'elle enfante tous les jours de nouveau à la vie. Il n'a d'égard qu'à ses prières pour convertir les pécheurs, pour qui elle prie, pendant qu'ils ne prient pas pour eux-mêmes. Notre Seigneur ne va pas nous exaucer, nous, en tant qu'individus. Il va nous exaucer, nous, bien sûr, en tant qu'individus, en tant que membres de l'Église qui prie. Ne pensez pas, mes très chers frères, que parce que vous avez prié pour quelqu'un et que cette personne s'est convertie, c'est que vos prières, ce n'est que vos prières qui les ont converties. Vos prières ont été le complément qui manquait mystérieusement à la prière de plein d'autres personnes, spécialement des personnes que vous ne connaissez pas, qui ne vous connaissent pas et qui sont peut-être déjà mortes. qui ont été appliquées, qui ont touché le cœur de Dieu et qui ont été à un moment qui se sont réalisées par la conversion de cette personne. N'ayons pas d'orgueil, mes très chers frères. Et c'est là où nous rejoignons ce que nous disions sur cette parole de Saint Jean, n'aimez pas le monde ni tout ce qui est dans le monde. Lorsque nous prions, mes très chers frères, nous devons prier avec une très grande humilité. Nous devons prier avec humilité par rapport à notre Père Céleste, duquel nous ne devons pas avoir l'impression de forcer la main parce qu'il est trop mou. Lorsque nous prions, nous devons aussi avoir conscience que nous présentons à un Dieu très saint le cas d'un cadavre puant, qui est celui que nous aimons et pour lequel nous prions. Ne pas aimer le monde, cette maxime appliquée à ce qui nous intéresse aujourd'hui, se manifeste premièrement, ou se réalise premièrement, par le fait que prier pour la conversion, qu'il ne faut pas prier pour la conversion de quelqu'un avec une fin qui nous sera un bien personnel. Qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire qu'il ne faut prier pour la conversion de quelqu'un avec comme fin un bien dont nous jouirons à titre personnel est un échec, nous conduira très certainement à l'échec. Et là, je trouve plusieurs exemples à donner. Vous avez le jeune homme qui a rencontré une jeune fille complètement mondaine et qui prie pour sa conversion. Alors vous allez dire, mais c'est terrible ce que vous dites, n'allez pas plus loin parce que ça va décourager tout le monde. Non, attendez, laissez-moi finir. Il est très rare et quasiment impossible que cet homme obtienne la conversion de la fille qu'il a en vue. Pourquoi? Eh bien, parce que probablement il est attiré par elle pour des mauvaises raisons. Et même si ce sont pour des raisons simplement naturelles, d'une certaine manière, sa prière n'a pour but que de se constituer une personne avec qui il va pouvoir se marier licitement en tant que catholique. Parce que le catholique ne doit pas se marier avec des mécréants, un mécréant. Et donc, du coup, il faut absolument que cette personne se convertisse. Sachez que c'est très difficile. Je ne dis pas que ça ne peut pas être exaucé. Il y a des exemples, je connais des exemples qui vont dans ce sens-là, mais ils sont très rares. Et la réalité, c'est que bien souvent, parce que cette personne qui prie est bien sympathique, la personne qui veut bien par hasard se marier avec lui fera des efforts pour être tolérante, pour être éventuellement, pour s'intéresser. Cette personne ne va pas dire non, mais le fait de ne pas dire non, dans ce cas précis, ne veut pas dire que la personne dit oui à Dieu. C'est-à-dire que cette personne sera plus ou moins convaincue parce que, en fait, voyant que le travail sur son âme est très difficile et on va trouver des autres moyens, et donc on va la convertir politiquement, on va la convertir sociologiquement, que sais-je. Et cette personne va devenir de notre bord politique, peut-être, si tant est que c'est vraiment possible, et cette personne, finalement, va nous donner l'impression que, à défaut d'une vraie conversion, on a une personne au moins avec laquelle on a des principes communs. Et le problème, c'est que les principes communs, et je dis qu'il y a des principes secondaires qui sont extrêmement importants, enfin, ils restent de secondaires. Il faut quand même que les principes premiers, fondamentaux, primaires, soient là. Et c'est la crainte de Dieu, l'amour de Dieu. Si une personne est de bonne disposition politique, de bonne conviction politique, mais que cette personne ne craint pas Dieu, qu'est-ce qu'elle va transmettre aux enfants? Elle va transmettre ses opinions politiques. On sait très bien, surtout à notre époque, que les enfants ont plutôt une fâcheuse tendance à adopter les opinions politiques inverses de leurs parents par esprit de contradiction. Cette femme, à moitié convertie ou pas convertie, que vous allez vous épouser, n'enseignera pas à vos enfants la crainte de Dieu, l'amour de Dieu. Qu'est-ce qu'elle va leur enseigner? Elle va leur enseigner ces valeurs qui seront finalement la justice propre, peut-être, ou en tout cas des choses qui n'en feront pas des chrétiens. Je ne dis pas qu'on ne peut pas prier pour les personnes, parce qu'il était tellement difficile de trouver des conjoints aujourd'hui qu'on peut, souvent on dit il faut prier. Je vais vous dire, priez pour la personne avant que vous la rencontriez, de telle sorte que cette personne puisse être ou bien déjà convertie, ou alors se convertir au moment. Mais vous savez, ne vous faites pas beaucoup d'illusions, parce qu'en réalité, bien souvent, il y a des conversions qui se font simplement sous le coup du coup de foudre, etc., et puis ça ne dure pas jamais très longtemps, si on ne parle pas des conversions hypocrites. Et puis, bien souvent aussi, il ne faut pas oublier, hein, que bien souvent, tout ceci est fait d'une façon très maladroite. Et quand un garçon se jette sur une fille en lui disant « Ah voilà, pour qu'on se marie, il faut absolument que tu te convertisses », etc., ben ça fait fuir. ça fait fuir, et il ne faut pas après dire, ah ben finalement, toutes les bonnes femmes sont féministes, et non, c'est vous êtes un gros balourd qui n'avait pas su vous bien vous comporter. Attention. Partageons, sinon les tâches, du moins les reproches, les griefs. Donc faisons très attention. Priez pour la conversion de quelqu'un dans un but très particulier dont nous serons les premiers et seuls à bénéficier, nous conduit bien souvent à l'échec. Priez plutôt pour les personnes que vous ne connaissez pas, enfin que Dieu vous les fasse connaître. Un autre exemple, nous passons très rapidement, un autre exemple, c'est par exemple prier pour que son grand-père se convertisse, ou que sais-je, son oncle, que sais-je, se convertisse afin qu'il fasse un beau legs. Là, vous pouvez être certain qu'il ne se convertira jamais. Hein. Pourquoi ? Parce que Dieu ne veut pas que vous priez d'une façon si intéressée. Vous allez dire, mais pourtant, je l'utiliserai pour le bon Dieu. Oui, mais le problème, c'est que... Oui, on va dire ça comme ça. Dans votre esprit, vous le pensez. Vous voyez ? Priez pour son voisin qui est insupportable, pour qu'il se convertisse. Comme ça, il me fichera la paix. C'est vraiment prier en se moquant de Dieu. Donc, vous voyez, n'aimez pas le monde... Ne vous aimez pas vous-même au point de faire de l'exaucement de la prière, de conversion, un bien propre dont vous jouirez à titre personnel. N'aimez pas le monde, se manifeste encore par une autre façon. Priez en se vantant que l'on prie pour les gens. Priez en se croyant indispensable. Priez en s'attribuant la conversion des personnes, ou en étant capable de le faire. Et souvent, on voit des gens qui vous les rencontrez, dites « Ah, ben, regardez, voilà, mon ami, hein, tiens, vous êtes deux catholiques. Oui, ah ben, regardez, c'est moi qui l'ai converti. » Si la personne est un peu nigaude, elle va dire « Ah, ben, oui, cette personne a pris, elle m'a converti, c'est grâce à elle. » Bon, c'est très bien, mais qu'est-ce que c'est ça ? C'est gloire à l'homme, alors. Merci. Peut-être que le bon Dieu devrait descendre des cieux en vous disant « Merci d'avoir converti cette personne à mon profit. » Oh, de rien, mon Dieu. Maintenant, retour d'ascenseur, hein, et surtout pas de coup fourré comme pour Drummond. Oui. Prier en se vantant, etc., bien sûr, c'est se condamner, non pas peut-être à ne pas voir des gens se convertir, parce que malheureusement, ceux qui se vantent sont souvent très bons dans la tchatche, si j'ose dire. Et donc, du coup, ils vont convertir un certain nombre de gens. Mais ces gens-là, finalement, vont être des convertis qui, lorsqu'ils ne repartent pas dans la nature, vont être des épaves, des déchets. Et c'est une chose que de prier pour les gens et de les amener aux prêtres, comme notre Seigneur nous a appris à le faire, pour qu'ils prennent soin d'eux, puis c'en est une autre que de farcir la tête des demi-convertis, de toutes sortes de choses, de les balancer plus ou moins dans les pattes des prêtres, et c'est souvent comme cela qu'on présente les gens aux prêtres, en réalité, et de telle sorte qu'ils soient tellement déformés que les prêtres ne puissent plus rien en faire, et que dès que le prêtre ouvre la bouche, eh bien le nouveau converti dit « Oh ben finalement c'est un mauvais prêtre » et il s'en va. Parce qu'il ne s'attendait pas à cela. Vous voyez, prier en se vantant, en se croyant indispensable, c'est, comme disait notre Seigneur pour les pharisiens qui faisaient des prosélytes jusqu'au bout du monde, c'est augmenter le nombre des enfants de la géhenne. N'aimez pas le monde se traduit encore par d'une autre façon. C'est prier sans faire partie de l'Église. Alors vous allez dire, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire, surtout à notre époque, ça c'est surtout quelque chose qui vaut pour notre époque, c'est-à-dire en étant dans l'ambiguïté ecclésiale. Je suis non unacum, mais j'assiste à des messes unacum, mais en retenant ma respiration, je vais assister à des conférences, la seule chose, à des retraites, la seule chose, je n'assiste pas à la messe parce que je ne suis pas d'accord, la seule chose, le prêtre est un bon prédicateur, mais c'est un mauvais prêtre. Oh là là, vous croyez que vous allez, que votre prière va monter quelque part, parce que votre prière, là, elle cherche le Dieu auquel s'adresser. Hein. Est-ce que c'est le Dieu de François? Est-ce que c'est le Dieu des demi-machins? Est-ce que c'est le Dieu des rebelles de François? Est-ce que c'est le Dieu des non-unacum qui sont pas d'accord avec François? Ou est-ce que c'est pas, qu'ils le reconnaissent comme pape? Est-ce que c'est le Dieu des non-unacum, mais alors qu'ils sont pas d'accord avec les autres non-unacum parce qu'ils sont pas de la bonne branche, etc.? Oh là là, mon Dieu! Qu'est-ce que c'est? Prier sans faire partie de l'Église, ça, c'est faire... Vous voyez, on mange à tous les râteliers, puis après on prie, Seigneur, convertissez. Mettez-vous à la place du bon Dieu, si j'ose dire. Il va dire oui, et la personne que vous allez convertir, vous allez la rendre à qui ? À quelle mère ? La mère de François, la mère des non-unacum, la mère des résistants, il faut faire partie de l'Église pour prier. Parce que notre Seigneur, lorsqu'il ressuscite quelqu'un, il le rend à sa mère. Alors faites partie de l'Église, si de la bonne Église, si j'osais être taquin. Faites partie de l'Église pour pouvoir prier pour les gens. Vous allez dire, mais ça me décourage de prier. Non, ça vous encourage, au contraire, à commencer par mettre de l'ordre dans votre maison, à vous, de savoir où vous êtes, à qui vous appartenez, de telle sorte que, éventuellement, par la suite, vous pourrez prier pour des gens. N'aimez pas le monde se manifeste encore par le fait que, la prière, lorsqu'on est soi-même dans le péché et dans l'impénitence, nous conduit finalement à faire des choses bien monstrueuses. Et bien souvent, on voit des gens qui sont très zélés pour convertir leurs prochains, étant eux-mêmes sous l'emprise du péché. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas prier pour les gens lorsqu'on est soi-même dans une situation délicate, parce que l'un n'exclut pas l'autre, paradoxalement. Mais il se trouve que si on se prend pour un missionnaire et qu'on est soi-même tout sauf pratiquant de la justice chrétienne, on risque de faire des choses assez catastrophiques. N'aimez pas le monde, on pourrait encore donner d'autres exemples, mais n'aimez pas le monde, une cinquième façon de ne pas aimer le monde, c'est de ne pas, plutôt d'aimer le monde en priant pour son prochain, c'est de se contenter de prier, vous savez, alors c'est une expression que j'ai apprise récemment, de prier des gros chapelets. Vous savez, comme on dit, oh, on va faire des gros chapelets, là, oh là là, quelle façon de parler. Alors bon, je sais que c'est la façon des modernes, les modernes parlent comme des barbares, ils ne savent plus parler français, c'est vrai. Mais enfin, ils ne savent plus parler catholique, si j'ose dire. Prier des gros chapelets, qu'est-ce que ça veut dire? C'est les orgues de Staline, c'est les qu'on balance en prière, ceux qui savent comprendre ce que ça signifie. C'est quoi? C'est le Blitzkrieg de prière, on va prier des gros chapelets pour la conversion d'un tel, comme ça il va nous rejoindre. Mais mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette façon de prier? C'est comme ça que vous priez pour un cadavre, que vous présentez un cadavre puant sous les narines délicates du Dieu qui est le roi des rois, infiniment saint. Et prier des gros chapelets pour la conversion des gens, c'est lancer des pierres en l'air, et vous savez ce qui arrive, c'est qu'elles retombent sur notre tête. Il y a un exemple qui nous est particulièrement cher, puisque c'est une de nos mères, mais il y a un exemple d'intercession pour les pécheurs, c'est bien sûr Sainte Monique, la mère de notre Père. Sainte Monique, dans les Confessions, Saint Augustin a deux chapitres très importants sur la façon dont sa mère, qui à cette époque-là était devenue très pieuse, a prié pour lui. Et nous en parlerons peut-être sans doute une prochaine fois lors de la fête, l'année prochaine, Dieu voulant, mais si nous sommes encore en vie. Mais il se trouve que nous devons quand même en parler, parce que c'est vraiment le moment d'en parler, très rapidement. Sainte Monique, nous dit Saint Augustin, déplorait la perte de l'âme de son fils. Son fils était un brillant professeur de rhétorique. Donc elle ne disait pas au bon Dieu, « Seigneur, regardez comme il pourrait faire un brillant rhéteur catholique. » Non, elle déplorait la perte de son âme. « C'est la perte de l'âme de mon fils. Il va en enfer. Il ne sera pas dans l'éternité avec moi du bon côté. » Elle déplorait la perte de l'âme de son fils. C'est donc notre premier point. C'était notre premier point, le premier point de ce sermon. Il nous dit aussi qu'elle versait des torrents de larmes pour fléchir l'inexorable indignation de Dieu. Car saint Augustin nous dit que Dieu écoutait sa mère, mais qu'il ne le convertissait pas et qu'il l'a laissé très longtemps dans l'abîme du péché et de l'hérésie. Il est resté 9 ans quand même dans cette tourbe. Pourquoi? Parce que Dieu était indigné contre son orgueil et contre sa sensualité. Et pourtant il écoutait sainte Monique. Donc elle versait des torrents de larmes pour fléchir l'inexorable indignation de Dieu contre son fils. Elle savait très bien que Dieu ne regardait pas avec complaisance le grand père de l'Église que son fils allait devenir. Et elle savait très bien qu'au moment où elle priait, Dieu regardait avec colère ce garçon qui se vautrait dans le péché et dans l'erreur. Ensuite, il y a une chose, ça c'est, il faut demander conseil au prêtre, mais saint Augustin nous dit qu'à un certain moment, au bout d'un certain point, voyant qu'elle ne pouvait pas, persuader son fils de revenir à la foi, elle ne voulait plus que son fils mange à sa table à cause de l'horreur que son hérésie lui inspirait. Et ça, c'est une chose à laquelle on pense peu. Mais vous voyez, souvent, ceux pour lesquels on prie des gros chapelets, évidemment, eh bien, on va boire des bières dans les pubs avec, on fait des randonnées, on fait de la tyrolienne et autre chose comme ça pour des activités viriles. On fait toutes sortes de choses, on boit des bières, etc. Bon, je ne dis pas qu'on va en boîte de nuit avec eux, parce qu'il y a quand même des limites, mais peut-être pour votre future épouse. Donc, il se trouve que, voyez, on prend... On a l'impression que plus on va être copain, pote avec eux, plus on... Sainte Monique ne voulait plus que son fils mange à la table à Satan parce qu'elle était catholique et que son fils était hérétique et qu'elle était encore, elle était devenue veuve et elle était maîtresse chez elle. Il y a des manières délicates, subtiles, mais très nettes, d'exprimer à ceux pour lesquels on prie, parce qu'on les aime sous un certain rapport, c'est peut-être notre famille, c'est peut-être... Mais de leur exprimer d'une façon charitable qu'ils nous font horreur. Sainte Monique a reçu, et ça c'est, il ne faut pas escompter cela, mais elle a reçu, par un songe prophétique qu'elle a reçu, elle a reçu l'assurance que son fils se convertirait. Mais, nous dit Saint Augustin, après avoir reçu divinement l'assurance de la future conversion de son fils, je cite les paroles de notre Père, bien loin d'en devenir plus négligente, elle ne diminua jamais, elle ne donna jamais ni de relâche à ses soupirs, ni de trêve à ses larmes, ni de fin à ses vœux et à ses prières. Vous receviez, dit saint Augustin au Seigneur, vous receviez favorablement le sacrifice qu'elle offrait pour moi, jusqu'au temps marqué. Parce que Dieu a encore différé longtemps avant de convertir saint Augustin. Quand bien même nous serions assurés que ceux pour qui nous prions vont se convertir, nous ne devons pas relâcher nos mortifications, nos prières, nos larmes. Vous allez dire, des larmes, je ne vais quand même pas prier, je ne suis pas une sorte de mauviette là, qui va pleurer. Alors, mes très chers frères, monsieur, à la fin de ce serment, si vous êtes encore dans cette disposition-là, vous avez tout compris, bravo, persévérez, vous serez un grand évangéliste. Et pour vous, mes très chers frères, vous comprenez qu'effectivement, lorsqu'on intercède pour quelqu'un, ce n'est pas qu'on cherche à persuader Dieu, puisque Dieu sait ceux qui doivent être sauvés, c'est que l'on offre un sacrifice à l'infinie majesté divine, afin que soient appliqués dans le temps les mérites de la passion de son Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, pour le salut de telle ou telle personne. C'est le sacrifice de notre amour propre au Dieu souverain et terrible que nous devons faire. Ce faisant, mes très chers frères, et j'espère que vous l'aurez compris, nous n'aimerons pas le monde et nous nous détacherons des effets, mais c'est pour s'unir à la cause. Et celui qui s'unit à la cause de tout par la pénitence, par la prière, par l'amour, eh bien celui-ci devient participant de la toute-puissance de ce Dieu qui est souverain et terrible et qui manifeste sa miséricorde dans le temps, ici-bas, dans les choses. Que Dieu, mes très chers frères, vous donne l'intelligence pour comprendre ces choses, qu'il vous détourne des idées fausses et qu'il vous donne de participer réellement à sa toute-puissance afin que ceux qui doivent être sauvés soient sauvés par la grâce de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Merci. Merci.